La porteuse de pain, deuxième partie, chapitre 46 à 50. Le lait jaillit, écumeux, dans le seau en fer blanc, et la nourrisseuse demanda. « Eh ben, présentement, nous pouvons causer. Qu'est-ce que vous me voulez ?»« Y a-t-il longtemps que vous habitez le pays ?» commença Soliveau. « 27 ans. J'en ai 41. J'en avais 14 quand mon père et ma mère ont acheté cette maison qui m'appartient aujourd'hui. Depuis quelle époque faites-vous le métier de prendre des enfants en nourrice ?» Ma mère en prenait, je les soignais. Quand ma mère est morte, j'ai continué. Vous connaissez alors toutes les nourrices de Joigny et les environs? Bien sûr, on se rencontre, vous comprenez, quand il s'agit de vacciner les mioches. Vous devez entendre raconter les histoires des parents qui ont déposé des enfants chez l'une et chez l'autre d'entre vous, et à qui, faute de paiement, vous êtes obligé de les renvoyer. Et ça arrive encore assez souvent. Au temps où nous vivons, on est trompé plus souvent qu'à son tour. Certainement qu'on ne connaît des histoires, et des drôles. A-t-on parlé devant vous d'une certaine Jeanne Fortier ? Madame Noiret fouilla sa mémoire. Jeanne Fortier ? Jeanne Fortier ? Répéta-t-elle. Qu'est-ce qu'elle était ? Une veuve. Hé, il y en a des flottes de veuves. Y a-t-il longtemps de cela ?
21 ans.
Mon doux Jésus, 21 ans. En faudrait une mémoire pour se rappeler les noms de si loin. Puis 21 ans, j'ai peut-être eu 300 mioches comme nourrisson. Ça en fait des noms de parents à retenir. Si vous n'avez pas autre chose que le nom pour que je vous renseigne, ça ne peut pas me suffire.
J'ai autre chose.
Bah dites-le donc. La veuve Jeanne Fortier fut condamnée, il y a 21 ans, pour le triple crime de vol, d'incendie et d'assassinat.
« Bonté divine, la gueuse !» s'écria Madame Noiret.
« L'a-t-on guillotinée ?»«
On l'a condamnée à perpétuité, » répondit Ovide. « Et elle avait ici, à Joigny, en nourrice une petite fille de quelques mois. »«
Chez qui ?»«
Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous interroger. »«
Attendez donc !» Attendez donc. Une femme qui a été condamnée pour incendie, vol et assassinat. La mémoire vous revient?
Oui, on en a assez causé dans le pays.
Et vous vous souvenez chez qui sa petite fille se trouvait en nourrice?
Chez la mère Frémie, parbleu.
Même qu'elle était assez vexée d'avoir en garde l'enfant d'une pareille scélérate, la mère Frémie. Et ça lui a fait perdre pas mal de pratique.
« Et où demeure la mère Frémie ?» demanda vivement Ovide.
« Au cimetière, la pauvre femme. Elle est morte. » Le Dijonnais venait d'avoir un moment d'espérance. La déception n'en fut que plus rude.
« Morte ? » répéta-t-il. « Mais elle avait des parents, sans doute, qui pourraient peut-être me renseigner sur ce qu'est devenu l'enfant. »
« Elle n'avait qu'un fils, un vaurien, qui s'est néyé dans l'Yonne. »
Tout m'échappe. Murmura Soliveau au déconfit.
Est-ce que vous seriez le papa, vous, par hasard? Demanda la nourrisseuse en jetant sur Ovide un coup d'œil méfiant.
Non, Dieu soit loué. Mais j'ai besoin de savoir si la fille de Jeanne Fortier est vivante. Pouvez-vous me la prendre?
Ah, dame, non. Je me souviens plus de ce que la mère Frémie a fait de la piotte.
Et je ne pourrais trouver ici aucun renseignement.
Dame. Adressez-vous à la mairie. Quand on nous laisse des enfants, c'est là que nous allons faire notre déclaration. Le maire la reçoit et donne des ordres pour aller conduire le mioche aux enfants trouvés. Ça arrive journellement.
Lorsque se présente un cas semblable, laissez-vous la nomenclature des objets qui peuvent servir un jour à faire reconnaître l'enfant?
Oui, monsieur. On indique la marque du linge, les signes particuliers du moutard, le nom du père et de la mère. Si on les connaît, et si ce sont des noms véritables. Celui de la nourrice et la date du dépôt. L'enfant de qui je vous parle s'appelait Lucie. À ce nom, on aurait donc ajouté celui de Jeanne Fortier, la mère.
et celui de Madame Frémy, la nourrice.
Oui, monsieur.
Eh bien, madame, je vous remercie, et je vous prie d'accepter ceci pour indemnité du dérangement que je vous ai causé. En même temps, Ovide tendait une pièce de 10 francs à Madame Noiret, qui la mit dans sa poche en répliquant
« Ça n'est point de refus.
Mais il n'y avait vraiment pas de quoi. Tout à votre service. » Le Dijonnais sortit joyeux de l'étable, puis de la maison. « Cela ira comme sur des roulettes, » pensait-il en se frottant les mains. « À l'hospice des enfants trouvés, on me dira ce que... » Il n'acheva ni sa pensée ni son geste, et au bout d'une seconde, reprit en fronçant les sourcils.
« Je suis un imbécile. Ce que je sais ne me mène à rien.
Pour qu'on me réponde, il me faudrait la date du dépôt, la marque du linge, et les signes particuliers s'il en existe. Le secours de la mairie m'est indispensable. » Le froncement de sourcils devint une grimace très accentuée.
« La mairie, » répéta le Dijonnais. « Mauvaise affaire. Jeanne est évadée.
Dans la supposition que son but en s'évadant était de retrouver ses enfants, et qu'elle viendrait ici pour se renseigner, on a sans le moindre doute envoyé son signalement au parquet et à la mairie. À peine aurais-je posé une question qu'on me croirait envoyée par elle, sachant par conséquent où elle se trouve, et je risquerais fort qu'on me traite en suspect. Sans compter que ça donnerait l'éveil au sujet de la tentative avortée faite par moi sur Lucie, et me mettrait dans de vilains draps.
Quel parti prendre? Si seulement je connaissais quelqu'un ici.
Tout en réfléchissant, Soliveau marchait au hasard, le front penché. Brusquement, il releva la tête et chercha le chemin conduisant à la mairie, qu'il trouva sans peine. Son parti était pris. Là, il entra dans un bureau et, s'adressant à un jeune employé qui s'y trouvait seul, lui demanda
« Pourriez-vous me dire, monsieur, qui était maire à Joigny en 1861 et 1862 ?»«
Parfaitement, monsieur, » répondit le jeune homme. Le maire à cette époque se nommait Duchemin. C'était le frère de mon père.
Est-il encore en fonction?
Non, monsieur. Mon oncle s'est retiré après la guerre.
Habite-t-il Joigny?
Non, mais Dijon, son pays natal.
Alors, il est mon compatriote, dit Soliveau.
Vous êtes donc comme moi de la Côte d'Or? Fit l'employé.
Oui, monsieur.
En demandant à voir mon oncle, vous aviez sans doute un motif.
Je voulais solliciter de son obligeance un renseignement qui se rapporte aux années 1861 et 1862. Il s'agit d'une chose fort délicate.
Peut-être pourrait-on vous répondre ici.
Je serais enchanté de vous être agréable.
Ovide se taisait et réfléchissait de nouveau. Son jeune interlocuteur avait l'air d'un garçon charmant. Il se tâtait pour savoir s'il ne devait point s'ouvrir à lui et formuler nettement sa question, mais la crainte d'éveiller des soupçons le retenait. Dominé par cette crainte, il allait se retirer lorsque la porte s'ouvrit violemment et un homme d'apparence vulgaire entra dans le bureau. En voyant cet homme, le jeune employé pâlit et se leva avec un embarras manifeste.
« Ah ça, monsieur Duchemin !» fit le nouveau venu d'une voix haute et d'un ton brutal. « Il faut donc venir vous relancer jusqu'ici ?»«
Monsieur, » balbutia l'employé,
« il n'y a pas de monsieur qui tienne. » Vous vous moquez de moi, et je commence à en avoir par-dessus la tête.
Ne criez pas si fort, je vous en supplie, dit le jeune Duchemin qui semblait au supplice.
Je crierai si je veux, et aussi fort que je voudrais. Tant pis pour ceux qui font des turpitudes, si on les leur reproche à haute voix. Ils ont ce qu'ils méritent. Payez-moi, et je me tairai.
Je vous ai prié d'attendre.
Et voilà 6 mois que j'attends. 6 mois que vous me remettez de semaine en semaine. 6 mois que vous me bernez comme si j'étais un vrai jocrisse. Et je n'aurai cependant, vous le savez bien, qu'à porter vos billets au parquet pour vous faire empoigner par la gendarmerie.
Je sollicite un dernier délai, 8 jours encore.
Ta-ra-ta-ta. Je vous donne jusqu'à demain. Si demain soir je n'ai pas les 1000 francs que je vous ai prêtés, en croyant sérieux l'aval de garantie de votre oncle et sa signature agréablement imitée par vous, je vous donne ma parole d'honneur que je casserai les vitres. Je n'irai même pas trouver votre mère pour lui demander de me rembourser. Je porterai les pièces au procureur de la République. Et en route pour la cour d'assises. À demain soir, monsieur Duchemin. »
Et le créancier furieux sortit comme il était entré.
Le jeune employé se laissa retomber sur son siège, écrasé, anéanti, et cacha sa figure dans ses mains. À travers ses doigts enlacés, on voyait couler de grosses larmes. « Pardonnez-moi, monsieur, » dit tout à coup Ovide en s'approchant du malheureux. « Pardonnez-moi d'avoir été le témoin bien involontaire d'une scène pénible. Je donnerais beaucoup pour ne pas connaître le secret que cet homme vous a si brutalement jeté au visage en ma présence. » L'employé releva la tête et répondit en pleurant. « C'est une juste punition, monsieur. Oui, j'ai commis une faute, un crime. L'homme que vous venez de voir est un gros marchand de Joigny, en rapport avec mon oncle pour le commerce des vins. L'année dernière, j'avais une maîtresse que j'aimais comme un fou. Je voulais satisfaire ses fantaisies pour l'attacher à moi, et je n'avais ni argent ni crédit. Une véritable démence s'empara de mon esprit. Je fis 2 billets sur lesquels je traçai un aval de garantie en imitant l'écriture et la signature de mon oncle, et je les portai à cet homme. Il les escompta. Quand arriva l'échéance, je ne pouvais payer. J'allais trouver l'escompteur qui se préparait à envoyer les traites à mon oncle, et mourant de honte, je lui fis un aveu complet, accompagné de telles promesses qu'il voulut bien m'accorder 6 mois. Les 6 mois s'écoulèrent, j'espérais pouvoir m'acquitter. Vaine espérance, je ne peux pas. Vous avez entendu cet homme le dire, il me perdra. Ce sera justice. Je subirai sans me plaindre la punition du crime que j'ai commis. Mais ma mère est innocente de ce crime, et elle en mourra. Oh, pourquoi n'ai-je pas eu la force de résister aux obsessions de la femme qui m'a conduite au mal? Peut-être la voyez-vous encore, cette femme? Demanda Ovide. Non, monsieur. Vous avez cessé de l'aimer? Ce n'est pas cela. Quand il ne m'est plus resté un sou, elle m'a fermé sa porte. Et c'est pour une telle créature que vous avez risqué le bagne? Je vous le répète, monsieur, j'étais fou. Bref, c'est 1000 francs qu'il vous faudrait? 1000 francs, plus ses intérêts depuis 6 mois. Que comptez-vous faire? Monsieur, je n'ai qu'à choisir entre 2 parties à prendre. Lesquelles? Me jeter à l'eau ou attendre les gendarmes qui viendront m'arrêter? Pourquoi ne pas vous adresser à votre mère? Ma mère est absolument sans fortune et vit à Dijon d'une petite rente viagère. À votre oncle? Mon oncle est inflexible pour ce qui touche aux choses de l'honneur. Il renierait sans pitié un neveu déshonoré. À quelle heure quitterez-vous votre bureau? Dans un instant, il va être l'heure. Où demeurez-vous? À côté de la mairie. Seul? Oui, monsieur, je vous ai dit que ma mère habitait Dijon. Où prenez-vous vos repas? À l'hôtel de la Cigogne. C'est là que je suis descendue. Nous dînerons ensemble. Le jeune du chemin regarda son interlocuteur avec étonnement. Pourquoi cet étranger, qui connaissait le secret de sa faute, paraissait-il lui témoigner de la bienveillance? « Je serai à vos ordres, monsieur, » répondit-il. « Comment se nomme votre créancier ?»« Petit Jean. Où demeure-t-il »« Sur le quai, à 5 minutes d'ici. » »« Prenez votre chapeau et conduisez-moi chez lui. »« Chez lui ?» répéta l'employé tremblant. « Sans doute. » Mais il va de nouveau m'accabler de reproches et d'injures. Ne craignez rien, et venez. » Machinalement, le jeune du chemin obéit. 5 minutes plus tard, les 2 hommes arrivaient chez le marchand de vin en gros. Un tonnelier qui travaillait dans la cour les conduisit jusqu'au bureau. Ovide ouvrit la porte et fit passer du chemin le premier. En voyant entrer son débiteur, le créancier farouche se leva, le visage décomposé par la colère, et demanda d'une voix dure. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Ce fut Ovide qui répondit. Une chose que vous approuverez certainement. Monsieur Duchemin vient réparer sa faute et vous payer ce qu'il vous doit. Il vient me payer? Lui? S'écria le négociant avec une incrédulité manifeste. Oui, monsieur. Monsieur Duchemin a commis une folie de jeunesse. Dites un crime? Un crime, soit. Nous ne discuterons pas sur les mots. Vous l'avez épargné et vous avez bien fait. Il vous en remercie. Oh oui, oui, balbutia Duchemin tout en larmes. Il se repent et ne recommencera plus. Jamais, j'aimerais mieux mourir. Je suis un ami de sa famille, continua Soliveau, et il est heureux que je me sois trouvé près de lui quand vous êtes venu lui demander de l'argent. Que tout soit terminé.
Je vais, monsieur, en échange des billets en question, vous remettre 1 000 francs, plus l'intérêt de l'argent pendant 6 mois.
Je ne veux pas des intérêts, répondit Petit Jean. Je ne suis point escompteur de profession. J'ai voulu rendre un service et non faire une affaire. C'est 1 000 francs net.
Ovide avait tiré de sa poche un portefeuille fort bien garni de billets de banque. Il en choisit un de 1 000 et le plaça sur un angle du bureau. Le négociant ouvrit sa caisse, en tira 2 carrés longs de papier timbré et dit
« Voici les traites. »
Soliveau les prit et les montra au jeune homme en demandant « Est-ce bien cela ?» Du chemin que l'émotion et la joie suffoquaient, fit un signe affirmatif et il étendit la main vers les traites. Mais au lieu de les lui donner, Ovide les plia soigneusement et les glissa dans son portefeuille qu'il remit dans sa poche. « Maintenant, monsieur, ajouta-t-il en s'adressant à Petit Jean, tout est bien fini, n'est-ce pas ?»«
Oui,
répondit le négociant d'un ton bourru, et que votre honorable protégé aille se faire pendre ailleurs. »«
Vous n'avez plus le droit d'être insolent, monsieur. Vous êtes payé, répliqua Soliveau, et prenez garde à votre langue. Si vous vous avisiez de parler d'une erreur dont la preuve a cessé d'exister, c'est à la famille Duchemin que vous auriez affaire.
Suffit, monsieur. Je suis d'âge à savoir me conduire, et n'ai nul besoin de vos avis. Bonsoir. »
Et Petit Jean ferma d'une main colère la porte de son bureau derrière les 2 hommes qui s'éloignaient.
« Monsieur, vous êtes mon sauveur !» dit à Ovide le jeune employé avec une effusion de gratitude.
« Je le sais parbleu bien. Ce quidam regrette de vous avoir épargné. Il voulait vous perdre.
Comment pourrais-je jamais reconnaître l'immense service que vous venez de me rendre ?»«
Je vous apprendrai cela tout à l'heure. Allons dîner d'abord et ne pensez plus à l'alerte que vous avez subie. Ça vous couperait l'appétit. »
Le Dijonnais et son compagnon gagnèrent l'hôtel de la Cigogne et s'attablèrent en face l'un de l'autre dans un petit salon où Ovide donna l'ordre de mettre le couvert. Heureux de se sentir débarrassé de son terrible créancier, le jeune homme voyait tout en rose.
« Ou je me trompe fort, ou vous devez avoir encore quelques petites dettes dans Choigny, » lui dit brusquement Ovide.
« Mais, allons, allons, ne me cachez rien. Vous savez bien que je suis votre ami.
Comment en douterais-je, après la preuve que vous m'en avez donnée? Répondez-moi donc franchement. Vous avez des dettes?
Oui, monsieur.
Quel en est le chiffre exact?
À peu près 2 000 francs.
Peste, vous allez bien, vous, quand vous vous y mettez.
Monsieur, c'est cette misérable femme.
Naturellement. Et comment comptez-vous faire pour payer?
Mes créanciers m'ont promis d'attendre.
Ils se lasseront un jour ou l'autre, comme le sieur Petit Jean.
Je paierai par à-compte.
Ne dites donc pas de bêtises. Vous le savez aussi bien que moi. Vous vous verrez prochainement en butte aux criailleries de ces gens-là.
Eh bien, je vous débarrasserai d'eux, moi, en échange d'un service que j'attends de vous.
Comptez sur moi, monsieur. Mon désir le plus vif est de vous prouver ma reconnaissance.
Vous le pouvez.
Comment ?
Comment ?
Répéta Soliveau, je vais vous le dire. Il y a 22 ans, j'étais amoureux d'une femme mariée, et cette femme avait des bontés pour moi. En l'absence de son mari, absent depuis plus d'une année, un enfant vint au monde. À son retour, le mari trompé ne soupçonna rien, et la femme coupable plaça l'enfant en nourrice à Joigny. Je fus obligée de quitter la France pendant un temps très long. Quand j'y revins, mon ancienne maîtresse avait disparu. L'enfant, confié par elle à une femme nommée Frémie, s'il faut en croire ce qu'on m'a donné comme certain, a été mis par cette femme à l'hospice des enfants trouvés. Or, je veux revoir ma fille, et il faut que vous m'y aidiez.
« De grand cœur, monsieur !» s'écria Duchemin. « Que faut-il faire ?»«
Il paraît que lorsqu'une nourrice n'est plus payée, et ne sait ce que sont devenus les parents du nourrisson à elle confié, elle a le droit d'envoyer ce nourrisson à l'hospice. » Après avoir fait une déclaration au maire de la commune, déclaration écrite et détaillée.
Oui, répondit le jeune homme, cette déclaration, signée par le maire pour légalisation de la signature de la nourrice, est transcrite sur un registre ad hoc et reste aux archives.
Le procès-verbal, outre les noms et les dates, ne contient-il pas la nomenclature et la description des vêtements que portait l'enfant?
Si, monsieur. Ainsi que la désignation des marques du linge et les signes particuliers s'ils s'en trouvent.
Eh bien, en échange du service que je vous ai rendu,
et de celui que je vais vous rendre encore, il faut me remettre une copie exacte de la déclaration, ou plutôt du procès-verbal en question.
Ce que vous me demandez là, monsieur, est très irrégulier. Mais je vous dois trop pour hésiter un seul instant. Je ferai ce que vous désirez. Seulement, il me faut certaines indications qui me guident dans mes recherches.
Je vais vous les donner le mieux que je pourrai. Duchemin tira de sa poche un carnet, un crayon, et se prépara à écrire.
L'année du dépôt d'abord, dit-il.
De 1861 à 1862.
Quel âge avait l'enfant ?
Une année environ.
Vous m'avez dit une fille, je crois.
Oui.
Son nom ?
Lucie.
Le nom de la nourrice ?
Frémy.
Le nom de la mère ?
Jeanne Fortier.
Duchemin tressaillit d'une façon si violente que son crayon s'échappa de ses mains et tomba sur la table.
« Qu'avez-vous donc ? » lui demanda Soliveau.
« Jeanne Fortier ? » répéta le jeune homme.
« Mais c'est le nom d'une femme condamnée à la réclusion perpétuelle pour les crimes de vol, d'incendie, d'assassinat.
C'est le nom de l'évadé de Clermont, dont le signalement a été envoyé au parquet et à la mairie.
C'est le nom d'une innocente, injustement condamnée, répondit Ovide d'un ton convaincu.
C'est le nom d'une femme que j'ai aimée, d'une mère qui, depuis plus de 20 années, demande à Dieu la grâce d'embrasser son enfant avant de mourir. Que vous importe à vous la condamnation de cette malheureuse et son évasion? Si elle ne s'était point évadée, serais-je venu à Joigny? Serais-je entré dans votre bureau? Aurais-je assisté à la scène déplorable que vous faisait le sieur Petit-Jean? Aurais-je enfin pu vous garder l'honneur? Vous sauvez du bagne? Assurez ainsi à votre vieille mère la tranquillité de ses derniers jours? Rendez donc à une mère le bonheur de retrouver et d'embrasser sa fille.
Je le ferai, monsieur.
Encore une fois, je n'hésite pas. Quand vous faut-il copie du procès-verbal?
Le plus tôt possible.
Le registre contenant l'original et la copie est certainement aux archives. Demain, j'arriverai de bonne heure à mon bureau. Je profiterai du moment où les employés déjeunent pour chercher le registre et vous satisfaire. À quel moment pourrais-je vous remettre la pièce dont vous avez besoin?
Je vous attendrai ici pour déjeuner, vers 11 heures.
Je serai exact.
J'y compte.
Et en échange de la pièce en question, je vous remettrai la somme nécessaire pour payer vos dettes.
Je pense qu'à l'avenir, vous ne vous laisserez plus aller aux folies amoureuses qui conduisent, vous savez.
Ah, monsieur, je vous le jure.
Était-elle jolie, au moins, votre maîtresse?
Très jolie, monsieur, la coquine. Brune, avec des yeux noirs étonnants, un petit signe noir sur la joue, et une taille incomparable.
Amanda était une parisienne employée ici dans un magasin de mode.
Amanda? Répéta Soliveau, à qui ce nom et ce portrait rappelaient des souvenirs.
Oui, monsieur, Amanda Régami.
Ce fut au tour du Dijonnais de bondir.
Ah, par exemple, voilà qui est curieux, s'écria-t-il.
Vous connaissez Amanda, monsieur? Demanda Duchemin.
Oui, mon jeune ami, et je comprends qu'elle vous ait mené loin. Mais elle n'est plus à Joigny.
Elle l'a quittée il y a quelques mois pour retourner à Paris, et elle est partie en laissant ici des dupes. Dans le magasin où elle travaillait, elle avait dérobé 2 pièces de dentelle, d'une valeur de 500 francs chacune.
Ah ah, et on ne l'a point fait arrêter?
Non, monsieur. À force de prières et de supplications, elle a attendri sa patronne. Seulement, on a exigé d'elle une reconnaissance écrite du vol et l'engagement d'en rembourser la valeur dans un laps d'une année. Sa patronne était bien décidée à la livrer à la justice si elle n'accomplissait pas cette promesse.
Voilà qui est grave pour elle.
C'était pour lui donner le moyen de payer que j'ai commis la faute que vous connaissez.
Eh bien, une fois l'argent dans ses mains, elle me dit « J'ai 1 an devant moi, je paierai plus tard. » Et elle dépensa la somme.
Depuis lors, s'est-elle acquittée?
Je l'ignore absolument, mais je ne le crois pas.
Comment se nomme la modiste chez qui le vol a été commis?
Madame de Lyon.
Elle demeure dans la Grand Rue, au numéro 74.
Le dîner était fini. Ovide regarda sa montre.
Voici l'heure de nous séparer, monsieur Duchemin, dit-il sans questionner davantage.
J'ai besoin de dormir et vais me mettre au lit.
À demain, avec ce que vous savez.
Oui, monsieur, et recevez une fois encore l'assurance de ma gratitude sans borne.
N'en parlons plus, dit Ovide.
Duchemin se retira. Le Dijonnais monta dans sa chambre, se mit au lit et ne tarda pas à s'endormir d'un paisible sommeil. Il était satisfait de sa journée. L'employé, tout en regagnant la mansarde qu'il occupait dans une maison voisine de la mairie, se demandait s'il ne rêvait pas. Acculé, la corde au cou, menacé de la cour d'assises, il avait brusquement recouvré la tranquillité de sa vie, sa liberté d'action, son honneur presque perdu. Les terribles billets escomptés par le farouche petit Jean étaient retirés, et le lendemain, les dettes criardes que le jeune homme avait sur le pavé de Joigny seraient payées. Pour obtenir des résultats si prodigieux, si complètement inespérés, il avait suffi de promettre à son sauveur une pièce prise aux archives de la mairie. Semblable vétille ne pouvait se refuser. Une chose cependant paraissait singulière et un peu inquiétante à Duchemin. Pourquoi cet étranger, dont il ignorait le nom, ne lui avait-il pas rendu les deux traites portant la fausse signature de l'oncle Duchemin, l'ancien maire? Ah bah, se dit le jeune homme. Ce digne bienfaiteur ne peut avoir contre moi aucune intention mauvaise. Il me rendra les traites demain. Et Duchemin s'endormit d'un sommeil non moins calme que celui d'Ovide Soliveau. Les employés de la mairie avaient l'habitude de faire acte de présence entre 8h30 et 9h à leur bureau respectif. Le lendemain matin, contre son habitude, car il était généralement en retard, Duchemin arriva à 8h moins un quart. Il prit chez le concierge la clé de son bureau et demanda celle des archives. Pour justifier cette demande, il expliqua qu'il avait des recherches à faire. Les archives de la mairie étaient tout simplement logées dans une petite pièce située sous les combles. Tout autour se voyaient des tablettes chargées de registres, de liasses poudreuses, de paquets de feuilles de vote et autres paperasses encombrantes. Une table de bois noircie placée au milieu de la pièce supportait un large sous-main de papier buvard, un encrier dont l'encre avait pris la consistance de la boue et quelques mauvaises plumes. Comme employé de la mairie, Duchemin connaissait à merveille le placement des archives qu'il était appelé à compulser de temps à autre pour des recherches. Il examina les dos des registres placés sur une large planche. Ces registres portaient sur une étiquette de parchemin les mots « hôpitaux »,« asiles », »,« infirmerie », etc. Duchemin suivit la pile et arriva à d'autres volumes pourvus de cet index. « Nourrices »,« enfants abandonnés ». Voilà mon affaire, pensa l'employé. La collection se composait seulement d'une dizaine de registres. Parmi ces volumes, il en choisit un qu'une seconde étiquette, placée au-dessous de la première, indiquait comme contenant réunis les 6 années 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866. Ce doit être là-dedans, murmura Duchemin. Si les renseignements donnés sont exacts, j'aurais bien vite trouvé. Il plaça le registre sur la table, l'ouvrit et se mit à le feuilleter page par page. L'année 1861 ne lui donna aucun résultat. Il passa à la suivante. Ou je me trompe fort, ou voilà ce que je cherche, fit-il en jetant les yeux sur une feuille volante attachée par une épingle à la page du registre. Tout en parcourant cette feuille, il lisait à demi-voix. Frémy, Jeanne Fortier, Lucie, oui, c'est bien cela. Les recherches n'auront pas été longues. À quoi bon copier? Je donnerai l'original. Et détachant la feuille volante, il la plia et la glissa dans sa poche sans même l'avoir entièrement lue. Ceci fait, il referma le registre qu'il remit en place, puis, après avoir reporté chez le concierge la clé des archives, il se rendit à son bureau. Tandis que Duchemin se livrait à son petit travail, singulièrement irrégulier, ainsi qu'il l'avait fait observer lui-même à Ovide Soliveau, ce dernier quittait l'hôtel de la Cigogne et descendait lentement la grande rue, regardant avec beaucoup d'attention les enseignes des boutiques qui venaient de s'ouvrir. Au bout d'une centaine de pas, il se trouva en face du numéro 74 et de la devanture d'une modiste. Aucun nom ne se lisait sur les vitres. Ovide se dirigea vers une jeune fille debout dans l'encadrement de la porte. « Mademoiselle ?» lui demanda-t-il. « Est-ce ici, je vous prie, que demeure Madame de Lyon ?»« Oui, monsieur, c'est ma mère. »« Pourrais-je lui parler ?»« Mais oui, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer ?» Ovide franchit le seuil. La jeune fille cria. « Mère, c'est un monsieur qui veut te parler !»
La porte de l'arrière-boutique s'ouvrit et Madame de Lyon, une femme d'une cinquantaine d'années, à l'air intelligent, parut.
« Vous me demandez, monsieur ? » fit-elle.
« Oui, madame, je désirerais vous entretenir en particulier. » Sur un signe de sa mère, la jeune fille disparut.
« Je vous écoute, monsieur, » fit la modiste.
Ovide alla droit au but.
« Vous avez eu ici, » dit-il,
« une demoiselle de magasin du nom d'Amanda Régami ?»«
Oui, monsieur, une fille de bonne apparence, mais un triste sujet. »«
Les apparences sont souvent trompeuses, madame.
Amanda Régami vous a volé, n'est-ce pas ?»«
Pour 1000 francs de dentelle. » »«
Qu'elle a pris l'engagement de vous payer. »
« Oui, monsieur.
Engagement que jusqu'à ce jour, elle n'a point tenu.
Mais je lui tiendrai parole, moi. Je lui ai accordé un délai d'un an. Quand le dernier jour de ce délai sera écoulé, et il approche, je porterai plainte au procureur de la République et je la ferai arrêter. Je sais qu'elle est à Paris chez une grande couturière. La police trouvera bien vite. C'est une dangereuse coquine. Elle a perdu ici un brave garçon en le poussant à faire des billets faux pour elle.
Vous voulez parler de monsieur Duchemin, sans doute.
Oui, monsieur. Alors, madame, permettez-moi de vous dire que vous commettez une erreur involontaire. Monsieur Duchemin n'a fait aucun billet faux. Ce bruit calomnieux était répandu par un créancier mécontent, désintéressé du reste à cette heure. Mais ce n'est point de monsieur Duchemin qu'il s'agit. C'est de mademoiselle Amanda Régami.
Donc, vous lui aviez accordé un an?
Sur ses supplications, oui, monsieur.
Elle a reconnu par écrit le vol qu'elle venait de commettre ?
Oui, monsieur, sans cela je l'aurais fait arrêter immédiatement. Avec cette pièce, je la tiens.
Mais que vous importe tout cela, monsieur ?
Il m'importe beaucoup. C'est la pièce en question que je viens vous prier de me remettre.
Madame de Lyon se recula en regardant son interlocuteur avec un vague effroi.
Ai-je affaire à un fou ? Se demandait-elle. Ovide lut sa pensée dans ses yeux et se hâta d'ajouter.
Rassurez-vous, madame. Si je réclame cette pièce, c'est que j'en ai le droit.
Comment ?
Je viens vous payer.
Vous m'apportez les 1000 francs que me doit Amanda ?
Parfaitement.
Avec les intérêts de l'argent depuis une année ?
Je joindrai les intérêts au capital, si vous l'exigez, madame.
Je l'exige ?
C'est votre droit. Les intérêts à 5 du 100 sont de 50 francs. C'est donc 1050 francs que je vais vous remettre.
Ovide tira de son portefeuille un billet de 1000 francs. Et de son porte-monnaie 2 louis et 1 pièce de 10 francs. Puis il ajouta en posant le tout sur le comptoir.
« Veuillez me donner un reçu et me remettre la déclaration de mademoiselle Amanda. »«
À l'instant, monsieur. »
Madame de Lyon écrivit un reçu et alla chercher dans l'armoire à glace de sa chambre la confession rédigée et signée par son ex-demoiselle de magasin et qui était ainsi conçue. « Je reconnais avoir volé à madame veuve de Lyon pour les vendre et m'en faire de l'argent, 2 pièces de dentelle d'une valeur de 500 francs chacune. Je prends l'engagement de lui payer la somme de 1000 francs, avec les intérêts, dans l'espace d'une année à partir de ce jour, si je ne veux pas être poursuivi pour mon crime, et je suis très reconnaissante à Madame de Lyon de ne m'avoir point livrée tout de suite à la justice, comme elle avait le droit de le faire. » Suivait la date et la signature. Ovide lut cette pièce curieuse, la serra dans son portefeuille où se trouvaient déjà les 2 billets de Duchemin, salua Madame de Lyon, retourna à l'hôtel de la Cigogne et commanda un déjeuner confortable pour 2 personnes. Ce déjeuner devait être servi à 11 heures précises. Puis il se mit à lire les journaux en attendant le jeune employé de la mairie. Celui-ci avait sollicité et obtenu de son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'absenter pendant une partie de l'après-midi. Au moment où sonnait 11 heures, il rejoignit Ovide dans le petit salon où ils avaient dîné ensemble la veille.
« Eh bien ?» demanda le Dijonnais.
« J'ai tout ce qu'il vous faut, » répondit Duchemin.
« Parfait. Avez-vous rencontré des difficultés ?»«
Aucune. Quelques recherches et voilà tout. »
Il poursuivit en tirant de sa poche le précieux document. « Voici l'original de la déclaration écrite par Madame Frémy, signée par mon oncle en sa qualité de maire, pour législation de la signature, et timbré du sceau de la mairie. » Ovide prit vivement le papier, le déplia et lut. « Moi, Mathurine Frémy, nourrice à Joigny, département de l'Yonne, après avoir déclaré au maire de Joigny, M. Raoul Duchemin, qu'un enfant du sexe féminin,
mis chez moi en nourrice le 12 avril 1861, avait été laissé à ma charge par la mère, Jeanne Fortier, arrêtée et condamnée depuis pour crime qualifié, j'ai été autorisée par Monsieur le maire à déposer la dite petite fille à l'hospice des enfants trouvés de Paris, ce que j'ai fait le 6 avril de l'année 1862. Et voici les indications qui pourraient servir par la suite à reconnaître l'identité de l'enfant si la mère ou toute autre personne intéressée la réclamait, indications reproduites sur le registre des dépôts à l'hospice. À l'enfant était joint. Premièrement, une chemise marquée JF. Deuxièmement, une brassière. Troisièmement, une paire de bas, un petit bonnet, un fichu de laine, une couverture de coton, une couverture de laine. Deux langes marquées JF. Signe particulier, néant. Nom de la mère, Jeanne Fortier. Prénom de l'enfant, Lucie. Nom de la nourrice, Mathurine Frémy. La signature de Mathurine Frémy, celle du maire pour législation et le cachet de la mairie, donnait à cette pièce un caractère indiscutable d'authenticité. Ovide, très calme en apparence, mais dont les regards brillants exprimaient la joie, replia le papier et le mit dans sa poche. « Je vous remercie, mon jeune ami, » dit-il ensuite. Et le déjeuner continua. Lorsque le garçon chargé du service eut apporté le café, les liqueurs et les cigares, Ovid tira son portefeuille, le posa sur la table et l'ouvrit. « C'est 2000 francs que vous devez, n'est-ce pas ? » demanda-t-il à Duchemin. « Oui, monsieur. Eh bien, les voici. Nous sommes quittes. » En disant ce qui précède, Soliveau tendait deux billets de banque au jeune employé. « Monsieur !» s'écria ce dernier avec un élan de reconnaissance. « Apprenez-moi le nom de l'homme généreux qui s'est fait mon sauveur. »« Je suis le baron Arnold de Reiss, » répondit Ovid en souriant. « Ce nom, je ne l'oublierai jamais. »«
Barf, je vous ai obligé. »«
Vous m'avez rendu un service. »«
Encore une fois, nous sommes quittes. » Quelques secondes s'écoulèrent. L'employé tenait les billets de banque à la main. Il les regardait et, maintenant, son attitude exprimait la gêne.
« Vous semblez embarrassé, » lui dit Ovid. « Auriez-vous quelque chose à me demander ?»«
Eh bien, oui. »«
De quoi s'agit-il ? » ?»«
Parlez franchement. Vous savez bien que je suis votre ami. »«
Je voulais vous prier de me donner les traites que vous a restituées le sieur Petit-Jean. »«
Je les ai brûlées, » répliqua laconiquement Soliveau.
« Vrai ? Douteriez-vous de ma parole, par hasard ?
Oh, monsieur !
Vous comprenez qu'on ne garde pas ces choses-là. »
2 heures sonnaient à la pendule du petit salon. Ovid se leva. « Il est temps de retourner à votre bureau, » fit-il. « Moi, je regagne Paris. Je prendrai le train de 2h50. Nous allons nous quitter. Je vous ai tiré d'une mauvaise situation. Prenez garde de vous remettre en situation non moins fâcheuse. Il est probable que le hasard ne vous enverrait point une seconde fois un terre-neuve de mon espèce. Je ne vous dis pas adieu, monsieur Duchemin. Nous nous retrouverons peut-être un jour. J'en serai charmé, monsieur. Et moi de même. Aussi je vous dis au revoir. » Après un échange de poignées de main, le neveu de l'ancien maire reprit le chemin de son bureau. Ovid demanda la note de ses dépenses et remonta dans sa chambre pour boucler sa valise. Là, il tira de nouveau son portefeuille et mit dans une seule poche les papiers qu'il allait emporter de Joigny et qui se composaient de 2 traites retirées des mains du sieur Petit-Jean, de la confession signée par Mademoiselle Amanda Régami et de la déclaration de Mathurine Frémy. « Je n'ai point perdu mon temps, » se dit-il avec un sourire. Cela coûte, il est vrai, quelques 1000 billets, mais ce n'est pas trop cher. J'ai de quoi fermer la bouche à Duchemin si par hasard on faisait une enquête. De quoi mettre Amanda à ma discrétion s'il lui venait des soupçons à propos de l'incident de Lucie, et de quoi la réduire à l'obéissance absolue si j'avais encore besoin d'elle. Il faut tenir ceux qui nous tiennent. Enfin, j'ai de quoi vérifier si la Lucie que nous connaissons est bien la fille de Jeanne Fortier. Décidément, ma petite collection vaut plus qu'elle ne me coûte.
Après ce court monologue, Ovid prit sa valise et descendit payer sa note au bureau de l'hôtel. L'omnibus qui l'avait amené la veille le reconduisit à la gare, et à 2h51, il prenait l'express pour Paris. À 5h du soir, il arrivait. Il était trop tard pour aller voir Paul Armand à l'usine de Courbevoie, et le Dijonnais ne voulait point se présenter à l'hôtel de la rue Murillo. En conséquence, il remit au lendemain sa visite à son pseudo-cousin, se fit conduire à son logis de l'avenue de Clichy, où il changea de costume et se donna l'apparence du baron Arnold de Reis. C'est chose utile et sage de prendre ces précautions, pensa-t-il, et de prévoir toute chose. Je n'ai rien à craindre d'Amanda jusqu'à présent, puisqu'elle ne sait rien et que l'accident arrivé à Lucie est mis sur le compte des voleurs. Mais on ignore ce qui peut arriver. Je crois prudent de faire connaître aux gens qui pourraient me menacer un jour que je suis personnellement cuirassé et que j'ai contre eux des armes terribles. Celui qui tremble par avance est sans force. Je dînerai ce soir avec Amanda. Ovide se rendit rue Saint-Honoré un peu avant l'heure de la sortie des ouvrières de Madame Augustine. Amanda, qui, en raison du silence gardé vis-à-vis d'elle par son platonique adorateur, croyait à une rupture, poussa un cri de joie en voyant Arnold de Reis venir à sa rencontre. « C'est vous, mon ami ? C'est vous, enfin ! » s'écria-t-elle en lui prenant la main et ayant l'air de lutter contre elle-même pour ne point lui sauter au cou. « Pensiez-vous donc ne plus me revoir, ma poulette ? Votre brusque départ me semblait un peu louche, je l'avoue, et votre silence plus louche encore. J'ai voyagé beaucoup pendant les quelques jours qu'a duré notre séparation. Voyager n'empêche pas d'écrire à ceux qu'on aime. Mon cœur n'est point coupable. Les affaires m'absorbaient et, d'ailleurs, je pensais revenir d'un moment à l'autre. Enfin, vous voici. J'oublie tout et je vous pardonne. Nous dînons ensemble, n'est-ce pas? J'y compte bien. Chez Brébon? Où vous voudrez? Nous allons reprendre possession du cabinet où j'avais hâte de me retrouver avec vous. Car vous me manquiez, ma parole. J'étais en mal de vous, comme disent les bonnes gens de la campagne. Ma poulette, vous êtes un ange. Nos lecteurs doivent se souvenir que le commissaire de police de Bois-Colombes avait ramassé près du corps de Lucie la moitié du couteau dont Ovide s'était servi pour frapper la jeune fille. Ce commissaire, homme très intelligent, avait paru n'attacher qu'une minime importance à sa trouvaille, mais au fond, il en appréciait la valeur relative. Possédant deux indices, le numéro de la montre volée et le fragment du couteau, il comptait bien, grâce à l'un de ces indices, découvrir l'auteur du crime. Peut-être le chef de la bande, qui dévastait en ce moment les environs d'Asnières, de Courbevoie, de Bois-Colombes et d'Argenteuil. Mais pour que le couteau pût le conduire à ce but, il fallait retrouver le manche auquel attenait un fragment de l'arme. Car sur ce fragment devait exister une indication permettant de suivre la piste du bandit. Le lendemain, on avait visité avec soin le théâtre du crime et ses alentours, mais sans résultat. Le commissaire, ne se tenant point pour satisfait, avait donné l'ordre à ses agents et aux gendarmes de battre la plaine, d'explorer pouce par pouce les sillons des champs, l'herbe des fossés, les talus du chemin de fer, afin de découvrir le tronçon de couteau dont le meurtrier avait dû se débarrasser en fuyant. Les recherches les plus consciencieuses n'avaient point abouti. Larchaud, le gendarme que nous avons vu le soir du drame sanglant, arrivé le premier avec son brigadier près du corps de Lucie, se signalait entre tous par son zèle. Il brûlait du désir de retrouver la trace de l'assassin et il ne désespérait point d'y parvenir. Un heureux hasard lui vint en aide. Depuis deux jours, Lucie avait quitté la demeure hospitalière du commissaire de police pour retourner chez elle au Quai Bourbon. Il était 10h du matin. Une belle journée succédait à une nuit d'orage. La pluie diluvienne, tombée pendant de longues heures, avec accompagnement d'éclairs et de tonnerres, avait roulé des monceaux de sable qui, par endroits, encombraient les ruisseaux. Deux cantonniers du service communal ramassaient le sable sur le chemin de Bois-Colombes à la Garenne et le rejetaient sur les bas-côtés. Tout à coup, l'un d'eux, se baissant, releva un manche de couteau auquel attenait un morceau de lame complètement couvert de rouille. « Qu'est-ce que tu as trouvé ? » lui demanda son camarade.
un vieux manche de couteau. J'ai cru que c'était autre chose. C'est bon à rien. »
Et il lança sa trouvaille sur le talus, descendant vers la plaine de la Garenne. En ce moment, Larchoux et son brigadier, en tournée, suivaient le chemin placé en contrebas du talus et gagnant plus loin la chaussée de la route. Le manche de couteau, lancé avec force, ricocha et vint tomber au pied de Larchoux. Les deux gendarmes s'arrêtèrent.
« Qu'est-ce qui jette des pierres par ici ?»
cria le brigadier. La réponse à cette question ne se fit point attendre. Le cantonnier apparut sur la crête du talus et répliqua «
Ce ne sont pas des pierres, brigadier. Quoi donc pour l'or ?
C'est un manche de couteau que je viens de ramasser dans le sable qui encombrait le ruisseau. Il est là, au bout de la botte de Monsieur Larchoux. » Les deux gendarmes regardèrent à la fois le sol. Larchoux aperçut le manche du couteau, poussa une exclamation de surprise et de joie et s'empressa de le ramasser.